Julien, tu peux mettre une première image. Voilà. Je me débarrasser de ça. Et je peux compter sur toi pour les changements, enfin, au lieu de, voilà, de faire ça autrement. Alors, j'allais faire un message, enfin, j'avais tout un texte et j'allais faire un seul message, mais en fait, je me suis dit, c'est après notre réunion, hop, je coupe en deux, donc voilà, un seul message sur ce matin, que peut-être que je reprendrai par la suite quand j'ai l'occasion. Bref, peut-être deux, et un plus court ce matin. Alors, dans la Bible, c'est divisé en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament était pour la loi, la poésie, les prophètes. C'est tous les écrits que pour le peuple d'Israël avant Jésus. Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, on a les évangiles, on a aussi les lettres des apôtres qui ont suivi. Donc on a ces deux parties. Souvent dans l'Ancien Testament, on a des histoires, des récits, c'est-à-dire c'est la narration. Et la narration, c'est là pour nous montrer la vie des gens réels et ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Et ça, souvent, ça nous apprend des choses. Dans le Nouveau Testament, il y a des lettres qui sont des choses directes, souvent des conseils, dans l'Ancien Testament aussi, mais on a plus ça dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Mais dans tout l'histoire de la Bible, on voit que la compassion, la patience de Dieu sont plus vastes que le rejet de Dieu par l'homme. C'est un des messages centrales de la Bible. On peut raccourcir en disant « Je vous aime », tout simplement. Mais on voit que la compassion et la patience de Dieu sont plus vastes que le rejet de Dieu par l'homme. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Vous comprenez la chose? Et puis, c'est pas toujours l'image qu'on donne de Dieu, n'est-ce pas? Le rejet de Dieu et la désobéissance à Dieu conduit à la catastrophe. Quand on fait des choses qui ne collent pas avec ce que Dieu souhaite pour notre vie, ça mène à bien des problèmes. Et puis on a passé un moment là de se rappeler de la mort de Jésus, le sacrifice pour nous. Saisir la grâce de Dieu par la foi, c'est la seule bouée de sauvetage dans notre vie. Là je suis en train de vous parler du message chrétien. Il y a d'autres visions du monde, il y a d'autres philosophies, il y a d'autres approches, mais là, je parle de ce que la Bible enseigne. La seule, saisir la grâce de Dieu par la foi, c'est la seule bouée de sauvetage dans notre expérience humaine, dans nos circonstances humaines, dans nos difficultés humaines, il y en a qu'une. On va rester là. Bouge pas encore, Julien. Restez là. En fait, l'image que vous avez en dehors des textes, ça s'appelle la porte de Machki. La porte de Machki était une des grandes portes d'une ville antique. Et à un moment dans l'histoire, on dit que cette ville était la plus grande ville du monde. Moi, ça, je connaissais pas. Donc, en lisant, en préparant ce message, cette ville était la plus grande du monde dans les années 600 avant Jésus-Christ. Elle était grande, elle était belle, et puis le peuple qui était là était puissant. Donc, ils étaient une force dans le monde. À cette époque. Des siècles plus tard, en 1849, il y avait un diplomate anglais installé à cet endroit, qui était aussi archéologue. Il s'appelle Austin Lyard. Et comme il était archéologue, il a retrouvé un palais enfoui sous la terre qui montrait la grandeur et la puissance de ce peuple. Tu peux changer de l'image. Alors ça, c'est après les découvertes. Donc ils ont fait des fouilles. Ils ont trouvé ce palais. Puis bon, il y avait des artistes qui ont fait des dessins pour rendre ce que ça aurait pu. Donc cet artiste, l'image, il a imaginé et dessiné une des grandes salles de ce palais. Alors cette ville, il s'agit de la ville de Ninive. La ville de Ninive et du peuple qu'on connaît aujourd'hui, c'est les Assyriens. Aujourd'hui, cette ville, c'est la ville de Mossoul, en Irak. Donc, pour vous situer aujourd'hui, géographiquement, c'est en Irak, Mossoul, et puis les fouilles de Ninive se retrouvent maintenant à l'extérieur de Mossoul. Donc, c'est là où se passait une partie de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Les murs que vous avez vus sur la première image, tu peux le remettre sur la première image. Les murs que vous voyez là étaient détruits par Daesh en 2016. Et aujourd'hui, il y a un projet pour reconstruire ces murs, pour remontrer donc la gloire, la puissance de cet ancien peuple. Alors, dans nos textes ce matin, nous allons prendre le bateau pour nous rendre effectivement dans cette ville de Ninive. En fait, on va pas y arriver. Je suis désolé. Le voyage est un peu long, donc on va pas y arriver ce matin. Et ça va être en compagnie d'un homme qui s'appelle Jonas. Et les textes aujourd'hui sont pris du livre de Jonas. Donc j'allais couvrir les quatre, mais en fait j'arrête aux deux premiers chapitres de Jonas ce matin. Et je vais pas lire tout le texte. Donc vous pouvez regarder dans vos Bibles et suivre cette histoire avec moi si vous voulez. Mais je vais pas lire tous les textes. Je vais juste focaliser sur certains textes dans le livre de deux premiers chapitres du livre de Jonas. Et dans le livre de Jonas, donc je vais résumer un petit peu toute l'histoire et puis recentrer sur le premier aspect de son histoire. Dans le livre de Jonas, il y a deux histoires qui se déroulent en même temps. Il y a deux histoires parallèles si vous voulez. La première histoire, c'est entre Dieu et Jonas. Donc on a toute l'histoire de Dieu qui interagit avec cet homme. Et au niveau de la foi, Jonas, il est un insider. Il fait partie du groupe, c'est-à-dire qu'il est croyant. Il croit en Dieu. Il croit en, bon, pour le peuple d'Israël, il croit en Yahvé. Et au-delà de cela, il est la porte-parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui l'envoie parfois d'amener des messages à d'autres personnes. Il est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament un prophète, porte-parole de Dieu. Donc on peut avoir certaines attentes par rapport à cette personne qui croit en Dieu, est un insider, carrément porte-parole de Dieu. Il a une certain statut. Et si tu es chrétien, si tu crois en Dieu, si tu crois en Christ, dans sa résurrection pour te sauver, tu peux t'associer avec Jonas, si tu veux. C'est souvent, je pense qu'on peut avoir ce réflexe de s'identifier avec des personnages bibliques. Si tu es chrétien, bon, tu peux t'associer avec Jonas. Alors l'autre histoire qui se déroule en même temps, c'est l'histoire de Dieu avec le peuple Assyriens, le peuple à Ninive. On a ces deux histoires qui se déroulent en même temps. Eux, ils sont les outsiders, si vous voulez. Donc, ils font pas partie du groupe. Ils sont pas croyants en Yahvé. Ils connaissent pas ou ils reconnaissent pas le Dieu d'Israël. Et si aujourd'hui, tu t'identifies pas en tant que chrétien, bon, tu peux te mettre dans la place de ces personnes-là. Le peuple de Ninive. Alors, je vais résumer maintenant le récit. Sans lire tous les textes. Première chose, on ouvre ce livre avec Dieu qui demande à Jonas d'aller à Ninive pour leur dire de tourner de leurs mauvaises actions. Et ils sont connus, nous dit le texte, pour leur méchanceté et pour leur violence. Ils sont belles, ils sont super villes, grandes, puissantes, mais aussi ils ont ce côté abus de pouvoir où ils sont violents et méchants. Donc, et Dieu demande à Jonas d'aller leur demander de se tourner vers lui, d'abandonner la violence, la méchanceté pour se tourner vers lui. Première chose. Deuxième chose, Jonas désobéit. Il part dans l'autre direction. Donc, c'est le deuxième fait de l'histoire, ça se passe comme ça. Troisième chose que je note, et que je vais noter plus en profondeur plus tard, et que je trouve important et intéressant, Jonas est bien conscient de sa désobéissance. Il sait ce qu'il fait. Quatrième chose, Jonas, il prend le bateau pour aller dans l'autre sens, donc d'où Dieu le demande. Dieu envoie une tempête et met Jonas dans la détresse. Non seulement il met Jonas dans la détresse, mais tous les autres qui sont sous le bateau sont en détresse également. Pour résoudre le problème, logique, on tire au sort. Alors, le résultat du tir au sort, donc c'est le cinquième point, on jette Jonas dans la mer. Voilà. Donc, et puis un petit constat dans ceux qui sont sous le bateau, les autres, les marins et les autres qui sont là, et Jonas, on verra ça peut-être un petit peu aussi, mais Jonas, croyant, insider, avec Dieu, se dit, craint l'Éternel. Les marins qui sont dans la tempête et qui se demandent ce qui se passe dans toute cette situation, ne croient pas en Yahvé, mais en fait, par la suite, ils se prosternent devant Yahvé quand la tempête se calme. Il y a un contraste entre un croyant qui dit craindre Dieu et fait le contraire, et puis les marins qui ne croient pas en Yahvé, mais en fait qui se prosternent et l'adorent. Qu'est-ce qui fait Jonas? Sixième événement. Au fond de la mer, Jonas prie. Septième événement dans cette histoire. Dieu répond à sa prière et le délivre. Ça, c'est la première partie. Je sais pas si je vais, parce que la deuxième partie, c'est la suite. Jonas à Ninive, je vais peut-être prendre ça dans un autre message. Mais c'est un tout. L'histoire qui se déroule avec Jonas, l'histoire qui se déroule avec les Assyriens et le peuple de Ninive, c'est la même chose. Bon, pas tout à fait la même chose, mais il y a ce même élément de la compassion de Dieu qui est plus vaste que le rejet de l'homme, son rejet de Dieu, c'est toujours présent. Et puis bon, peut-être que je vais dire au moins la dernière événement que j'ai noté dans ce livre de quatre chapitres, la toute dernière partie de ce livre. C'est un peu étrange quand même quand on lit la fin de Jonas. Parce que le livre de Jonas finit avec une question. C'est pas la fin d'une histoire, c'est pas tout bouclé, si tu veux. Et en gros, Dieu demande à Jonas, fais-tu bien de rester dans tes mauvaises attitudes envers moi et les autres? Regardez, enfin, allez-y, regardez la fin de Jonas, si vous voulez, la fin de chapitre 4. Moi, j'ai tourné la phrase d'une autre manière, mais Dieu demande à Jonas, fais-tu bien de faire ce que tu fais? Point. On ne connaît pas la suite du livre de Jonas. On ne sait pas ce qu'il a fait par la suite. Mais quand il a quitté, quand on quitte Jonas avec Dieu, il est fâché contre Dieu, si tu veux. Et ouais, bon, je vais laisser ça. Je vais avancer avec le message. Première chose, la demande de Dieu. Si on est chrétien, si on est croyant, il y a des choses que Dieu nous demande. La demande de Dieu envers Jonas était le suivant. L'Éternel adresse la parole à Jonas, mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. C'est ce que Dieu demande à Jonas. C'est pas une chose facile. C'est des peuples qui, par moment, étaient en guerre ou en conflit. On dit qu'ici, bon, ils étaient probablement pas en conflit à ce moment-là parce que Jonas a la liberté d'aller les voir et de leur parler. En tout cas, Dieu demande à Jonas, vas-y, mets-toi en route. Et bon, comme c'était pas un peuple ami, c'est chose difficile pour Jonas, mais Dieu nous demande quand même à nous, chrétiens, chose difficile, n'est-ce pas, pour notre vie, qui sont parfois contre-courant de ce que nous vivons dans la société. Dieu demande clairement à Jonas de faire quelque chose. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de zone grise dans sa demande, n'est-ce pas? Assez clair. En tant que chrétien, puisque nous avons la Bible aujourd'hui, Jonas n'avait pas la Bible, il avait l'esprit de Dieu qui lui demandait. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous avons des demandes de la part de Dieu concernant notre manière de vivre. Dans beaucoup de passages de la Bible, les demandes sont explicites, claires. Il n'y a pas de zone grise dans les demandes. Pour d'autres choses, il y a des questions. Mais pour ces choses qui sont explicites, nous n'avons pas de questions à nous poser. Mais je vous l'accorde, la mise en pratique des choses que Dieu nous demande n'est pas toujours simple, n'est-ce pas? La mise en pratique de la parole de Dieu n'est pas une chose facile dans notre état d'être humain. Alors, c'était la demande. Ensuite, il vient la désobéissance de Jonas. Dieu demande, va leur dire parce que je les aime. En fait, on verra dans un deuxième message, la motivation, c'est cette compassion et patience de Dieu envers toute personne. Mais on arrive à Jonas qui dit, j'y vais pas moi, j'ai pas envie de faire ça, ça me plaît pas ça. Donc moi, je me sauve, je prends la route dans l'autre direction. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, pour s'enfuir. C'est ça sa motivation. Loin de la présence de l'Éternel. Alors, écoutez, hein, moi je moque là un petit peu de Jonas, mais soyons clairs sur ce sujet. Nous sommes tous Jonas. Nous sommes tous dans le même bateau. Donc, l'Évangile dit que toute personne a fait des torts. Il y a personne qui est au-dessus de l'autre. Donc, si je moque gentiment de Jonas, comme ça, il y a aussi ce côté très sérieux que personne n'est épargné de nos désobéissances. Donc, quelle est la réaction de Jonas? Il décide de déshonorer Dieu. C'est quand même la porte-parole de Dieu, c'est un prophète. Mais il décide, qui montre aussi, bon, peut-être pas de niveau, on place pas un prophète au-dessus du chrétien ou du croyant normal. Il décide de déshonorer Dieu, de désobéir. Il a dit, je vais faire ce que je veux. Et il part. Il a trouvé son bateau pour Tars. Et comme je viens de dire, je prends pas Jonas de haut. Je suis aussi coupable que Jonas. Si vous êtes chrétien quand vous savez à travers votre connaissance de la Bible que ce que Dieu souhaite pour votre vie et vous faites le contraire, on sait tous que Dieu déplore cela et que ses actes le déshonorent. Trois pensées sur la désobéissance de Jonas. La désobéissance de Jonas l'a mis dans le tourment. Dieu l'a demandé de faire quelque chose de difficile. Il est parti dans l'autre sens. Il se retrouve sur un bateau dans la mauvaise direction et il se trouve dans la tempête. Le texte dit « L'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Il se dirigeait vers le catastrophe humain. Sa vie, sa réaction à Dieu, il se dirigeait vers la catastrophe. Tout rejet de Dieu mène à ce genre de catastrophe. Pour Jonas, les circonstances difficiles dans lesquelles il s'est trouvé étaient en lien direct avec ses actes. C'est Dieu réagit à Jonas. Dieu réagit à Jonas pour lui, à cette époque. Il est en train de lui dire quelque chose. Dieu réagit à Jonas pour nous. Dieu sait que le livre de Jonas va paraître. Dieu sait que le livre de Jonas va survivre jusqu'à chez nous. Ce message, ce que Dieu apprend à Jonas, il apprend également à nous. Notre désobéissance à Dieu peut nous mettre nous aussi dans le tourment. Mais Dieu n'agit pas toujours de la même manière. C'est-à-dire, c'est pas toujours comme ça que Dieu agit. Mais j'imagine que vous pouvez penser à des moments où vos propres actes ont provoqué de la difficulté, ont provoqué des tempêtes dans votre vie. Moi, je peux. Est-ce que quand j'ai dit ça, quand vos actes ont provoqué de la difficulté, est-ce que vous pensez à quelque chose? Vous avez vécu ça? Moi, je l'ai vécu. Notre désobéissance à Dieu peut nous mettre dans le tourment. Deuxième pensée sur la désobéissance de Jonas.
Nous sommes entourés de personnes dans notre vie. texte dit « Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. » J'ai perdu mes pieds.
Allez. Ça y est ? Allez, c'est bon. Le texte dit « Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. » Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les dieux différents. Puis même aujourd'hui, les gens ont des perspectives du monde différentes. Nous, on est chrétiens. On croit dans le Dieu de la Bible. Eux, enfin, ils étaient en catastrophe. Ils allaient couler. Enfin, la suite du texte, c'est puis ils jetèrent le cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Enfin, ce réflexe, c'est si on le fait pas, on est au fond, quoi. Panique à bord. Jonas a mis en danger la vie des autres. De la même manière, nos fautes à nous ont des conséquences sur les gens autour de nous. Soyons conscients de cela. Dernière pensée sur la désobéissance de Jonas. Le tourment peut être un signal que nous ne sommes pas sur la bonne route. Et parfois, on constate pas que ce que nous faisons a des conséquences, enfin, où on prend à la légère nos actes. Mais parfois, on se constate, ouh, bah, ça va pas si bien que ça, tu vois. Et que ça peut faire le déclic, enfin, je veux dire, dans notre vie, si on se retrouve dans la difficulté. C'est pas toujours, bien sûr, à cause de nos actes. Je prends l'exemple de Job. Job, innocent devant Dieu. Dieu permet que quelque chose arrive dans sa vie. Mais il y a aussi des moments où nos actes provoquent ce tourment. Et puis ça peut être un déclic. Il faut être conscient de nos circonstances. Et si on est conscient de difficultés, c'est peut-être le moment de faire le bilan avec Dieu. Si on constate qu'il y a difficulté, c'est peut-être le moment de se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et quand on fait le bilan avec lui, comme j'ai noté, saisir sa solution, c'est le seul bouée de sauvetage. C'est le seul vrai secours. Deuxième partie, donc, sur le choix de Jonas de désobéir, c'est que le choix, et j'ai noté ça tout au début, c'était le choix était conscient. Il savait. C'était pas un accident. Il était au courant. Une chose qu'on remarque dans ce texte est que Jonas est bien conscient de ses choix, mais il les fait quand même. Excusez-moi, mais moi, certainement de la semaine dernière, je vous donne un exemple de moi, de consciemment où je fais quelque chose qui ne colle pas avec ce que Dieu veut pour moi. On est tous dans ce même bateau. Voilà ce qu'il dit Jonas. Ça me frappe, mais enfin, tu veux dire, quand je lis les textes, ça me frappe. Je dis, quand même, Jonas. Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel. » Ça y est, merci, Julien est avec moi. « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de Dieu. C'est lui qui leur dit. Ben moi, je m'enfuis. Je veux pas faire ce que Dieu veut que je fasse. Il est conscient. Il admet. Bon, il est sous pression dans cette circonstance de dire ce que c'est le problème. Mais il admet. Et puis les hommes furent ils furent saisis d'une grande crainte et lui dirent: mais pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce qui va là? Pourquoi tu fais ce que tu fais là si ça crée tant de difficultés? Donc Jonas est bel et bien conscient de son mauvais choix. Et on peut s'insurger contre l'attitude de Jonas en disant, bah, t'es gonflé de dire ça. Enfin, tu prends le mauvais choix et puis tu dis à tout le monde en même temps que voilà, j'ai fait un mauvais choix et puis ça cause votre catastrophe en même temps. On peut dire qu'il est un peu gonflé. Mais la situation le met dans cette pression pour parler de son problème. Mais pourtant, comme j'ai dit tout à l'heure, nous faisons la même chose. On fait souvent la même chose, faisant des choix conscients que nous, chrétiens, nous qui lisons la Bible, nous qui viennent ici écouter la parole de Dieu, nous qui prions en même temps, on fait des choix contre ce que nous savons ne plaît pas à Dieu. On fait ces mauvais choix nous-mêmes, malgré notre connaissance du prix payé par Dieu, par Jésus. On vient de célébrer la mort, la résurrection de Jésus. Et par moments, vraiment, on n'honore pas cela avec nos actes. Par la suite, dans l'histoire, c'est ce que j'ai décrit comme le désespoir insensé de Jonas. Tu peux revenir sur le premier écran si tu veux, Julien. Le désespoir insensé de Jonas, parce que à ce moment-là, il est lui-même en désespoir. Et je dis, bon, son attitude s'empire, si vous voulez. S'empire dans le sens que il perd pédale. Il entre dans ses attitudes. J'ai qu'une envie, c'est de mourir, quoi. C'est, en fait, il exprime. Il est conscient de ce qu'il fait et il ne se tourne pas vers Dieu. Tu vois, dans le texte, il y a les autres, les marins qui ne connaissent pas Dieu, ils commencent à prier, ils ne se tournent pas vers Dieu à ce moment-là. C'est quand même, ça pose question. Quand même. Il désespère, il dit aux autres marins, prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaîné contre vous. Je trouve que son désespoir est un peu insensé. Je comprends qu'il soit dérouté. Jonas connaît Dieu. Jonas est son porte-parole, même. Pour moi, la chose logique, aujourd'hui, en tant que chrétien, la chose logique pour nous, cohérente, serait que Jonas dise, ok, Dieu, j'ai tort, j'ai fauté. Tu es puissant, il est dans la tempête là, il est dans des circonstances qui le dépassent, mais de loin. Tu es tout puissant, pardonne-moi, ramène le calme, ramène-moi avec dans ce calme. Mais il dit, prenez-moi et jetez-moi à la mer. C'est ce désespoir. De notre côté, je peux comprendre de son désespoir, si vous voulez. Car parfois, c'est vrai que nous sommes au fond du trou. On ne voit pas clair. On ne voit pas la solution. On prend tout sur nous, parfois. Tellement de culpabilité, de choses, on prend, quand on est au fond du trou, on n'a pas forcément le réflexe de dire, tu peux me sortir de... On ne voit pas clair. On a la mort dans l'âme. On se sent immobile par nos actes, par notre tout. La situation nous dépasse. On sent incapable d'agir, parfois. Quand on vit un peu, moi j'ai 58 ans maintenant, depuis le mois de juillet, quand on vit un peu, ouais, l'autre fois, qu'est-ce que j'ai dit, 78 ans, un truc comme ça, cette fois-ci c'est bon, je suis plus lucide ce matin que d'autres. Quand on vit un peu, on a l'occasion de vivre la détresse. C'est malheureux de le dire, mais quand on vit un peu, on passe beaucoup de situations de vie, beaucoup de relations, et on peut être vraiment dans le trou. Pour ceux qui ont mon âge, peut-être que vous êtes passé par ces difficultés où vous étiez désespéré. Et quand vous avez la mort dans l'âme. Alors, la dernière page de mon message ce matin est la plus belle. Pas au niveau de l'impression ou mes notes que je gribouille dessus, mais au niveau de ce récit, c'est la plus belle d'aujourd'hui. Et moi, j'ai donné comme titre à ce paragraphe ou cette partie l'inimaginable action in extremis de Dieu, sa grâce et sa délivrance. Cette situation de Jonas est terrible. C'est un homme qui va mourir. C'est un homme qui a provoqué sa propre mort. C'est un homme qui va amener des autres avec lui au fond, qui vont mourir. C'est un récit d'un naufrage. Sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan réel, ils vont couler. C'est fini. Si Dieu n'intervient pas dans cette situation, il meurt. Point. Au fond. Dans l'histoire de Jonas et dans le premier verset du chapitre 2, la bouée de sauvetage est jetée et nous sommes confrontés à l'inimaginable, une action in extremis de Dieu par sa grâce et par sa délivrance. Et ça, cet acte se contient dans cette première phrase du chapitre 2 qui dit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. » Improbable, incroyable, miraculeux, enfin, vous dites ce que vous voulez de ce que le texte dit. Le fait est que plus tard dans l'histoire, Jésus traite Jonas comme un homme réel. Il fait référence à lui. C'est pas une allégorie. Dieu intervient dans l'impossibilité humaine de changer de direction, de changer de circonstances. Dieu envoie la bouée de sauvetage. malgré sa désobéissance, malgré le fait que Jonas était bel et bien conscient de son choix, malgré le fait que Jonas est sombré dans le désespoir, Dieu vient à sa rescousse. C'est la plus belle page. C'est la plus belle page. Jonas se sentit tellement coupable, certainement, qu'il fallait qu'il meure, qu'il fallait qu'il s'enfuit, qu'il fallait qu'il va loin de la présence de Dieu. Tellement que ce qu'il portait en lui était lourd. Il voulait même sa propre mort. Mais la plus belle page dit que Dieu nous souhaite la vie. Lorsque nous faisons des choses qui nous plombent, qui nous met la mort à l'âme, Dieu nous souhaite la vie. Et Dieu est capable de changer ces choses. Nous croyons cela. En tant que chrétiens, on croit en cela. Peut-être que si vous n'êtes pas chrétien, vous ne croyez pas à cela. C'est que du hasard, que des circonstances. Mais nous croyons que Dieu est capable. Et dans ce récit, il déploie tous les moyens de nous y ramener. Il emploie un poisson qu'il avale et qu'il la ramène sur le bon chemin. Il déploie tous les moyens. Le sauvetage de Jonas dépasse notre entendement. C'est l'acte in extremis pour redonner la vie et de l'espoir à Jonas. Sa compassion et sa patience est plus grande que le rejet de Jonas. C'est aussi, si c'est pas une seconde chance, peut-être plus d'une seconde chance pour Jonas, pour le laisser suivre Dieu. Dieu lui donne encore l'occasion d'aller faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a dit, va à Ninive. Je dis non, je vais pas à Ninive. Et Dieu le ramène à Ninive. Il lui donne encore l'occasion de dire, ok, Dieu, je vais te suivre. C'est difficile, mais je vais te suivre. Dieu le ramène sur le bon chemin en donnant une seconde chance. Et Jonas lui-même le constate. On va garder ce chapitre aujourd'hui, mais Jonas constate le caractère de Dieu lui-même plus tard. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour. Et tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. Jonas lui-même plus tard constate comme il est Dieu. Il ne souhaite pas qu'il coule, qu'il meure, qu'il ne souhaite pas qu'il désobéisse. Il constate que Dieu l'aime. Il constate que Dieu est patient. Il constate que Dieu le ramène. Il constate que il veut renoncer à des choses qui vont nous condamner. Il constate que Dieu pardonne. C'est une belle page, n'est-ce pas? Jonas lui-même, il saisit cela. Il écrit dans son livre. Alors, on va terminer ce message. Et si vous voulez, on va lire la prière de Jonas lorsqu'il est aux portes de la mort. Au fond, littéralement au fond. Et je sais pas, en fait, j'ai enlevé... Oui, c'est les versets... Ça commence le chapitre 2 ou 1, verset 8 à 10. C'est le chapitre 2, voilà. Voilà sa prière. C'est une prise de conscience de sa part. C'est tardif. Tu vois, il est en train de mourir. Il est jeté... et bien bon, peut-être nous aussi, on est dans cette même situation où on réagit tardivement à quelque chose. mais il réagit quand même. Il y a une prise de conscience. Et voilà ce qu'il dit dans cette prise de conscience qui est exprimée dans sa prière. Quand j'ai désespéré de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, Éternel. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ce qui s'attache à des futilités illusoires se prive de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Car c'est l'Éternel, c'est de l'Éternel que vient la délivrance. C'est de l'Éternel que vient la délivrance. Jonas, il a vécu la délivrance. Il exprime sa reconnaissance. Il se redonne à Dieu, si vous voulez, dans cette prière. Je me suis rappelé de toi. Quand on voit pas clair dans nos détresses, dans nos difficultés, c'est ce qu'on doit faire, des choses qu'on peut apprendre de ça, de cette prière de Jonas. C'est lorsque nous nous retrouvons au moment où on peut prendre une direction autre que celle de Dieu pour notre vie, ou si on constate qu'on est déjà dans le virage même. Souvenons-nous du Seigneur. Première chose. Tu es là. Oui, en fait, oui, tu es là. Parle-moi. Deuxième chose, ne nous attachons pas à d'autres solutions que celles décrites par Dieu dans sa parole. Même si c'est difficile, on ne doit pas s'attacher à des illusions, des choses qui ne sont pas solides, des choses qui, à la fin de la journée, ne nous satisfait pas. Troisième chose, donne-nous pleinement à lui. Sa réaction dans sa prière, quand il est au fond, c'est « Ok, je me redonne, j'offre un sacrifice, je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. » Il se redonne entièrement à Dieu. Et Paul dit dans la lettre des Romains, on doit vivre notre vie comme un sacrifice vivant. Là, dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices des animaux. Aujourd'hui, c'est nous qui nous donnons à Dieu par nos actes, par la manière de que nous vivons. Dernière chose qu'on peut apprendre de sa prière, c'est exprimant notre reconnaissance envers lui. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vraie vie. C'est lui qui donne une vie où nous sommes en paix quand on marche avec lui. Et quand on est dans la difficulté, c'est de lui que vient la délivrance. Et si on est délivré de quelque chose, on peut dire merci, n'est-ce pas ? Dans la grande histoire de la rédemption de Dieu qui sauve l'humanité, on doit déjà avoir cette attitude de reconnaissance. Merci, Seigneur. On l'a dit tout à l'heure à travers la Sainte Cène. Merci, Jésus, pour ton sacrifice. Quand on est délivré de nos difficultés, on peut dire merci, Seigneur, de cette délivrance. C'est de lui qui vient la délivrance. Souvenons-nous du Seigneur. Laissez-le nous parler. Ne tâchons-nous pas à des choses qui sont illusoires, pas solides. Donne-nous pleinement à lui comme un sacrifice vivant. Soyons reconnaissants. C'est énorme ce que Dieu fait pour nous. Et en tant que chrétien, et pour boucler le message, quand on voit d'autres dans le tourment, dans la difficulté, on est conscient de notre état également. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous Jonas. Et dans nos attitudes, nous soyons pleins de grâce et de compassion, comme Dieu a été plein de grâce et compassion pour Jonas. Soyons lents dans nos réactions aux autres, riches en amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Et sachant, avec tout dans cette attitude-là, devant Dieu et devant les autres, que c'est de l'éternel que vient la délivrance. Voilà, petite partie, première partie de Jonas.